Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'étavé, Jérusalem, réjouis-toi, Jérusalem. Aujourd'hui, l'Église nous convie, l'Église nous enseigne la joie. La joie parce que nous sommes à la mi-carême, parce que nous devons anticiper en notre esprit la joie de Pâques, la joie d'appartenir au Seigneur. L'Église, en effet, en bonne mère, sait que les efforts, nos efforts, ne peuvent durer bien longtemps que si nous entrevoyons le but ultime de ceci. Sinon, le découragement s'installe assez vite et avec lui le relâchement. Il nous faut donc faire, je crois, un bilan de cette première moitié de carême, afin de savoir si, oui ou non, nous avons accompli ce que nous nous étions proposés comme résolution, comme point d'effort. Sinon, il faut de manière urgente se dire, il reste encore la moitié du carême, je peux encore faire quelque chose. Et nous devons ainsi repartir de ce dimanche avec un cœur joyeux vers Pâques, mais un cœur qui soit aussi plein de résolution. La joie, quelle chose formidable que la joie. Toute la vie chrétienne, même la pénitence, doit être imprégnée de joie. La joie, dans ce cas-là, est joie profonde. Elle est joie intérieure, joie qui se manifeste tranquillement, j'allais dire, et sobrement à l'extérieur. Oui, nous avons le droit d'être dans la joie, malgré la pénitence, malgré le carême, parce que nous appartenons à Dieu et que nous allons à sa rencontre. C'est la joie du salut qui arrive bientôt par la croix et la résurrection. Nous savons ce que le Christ a souffert, mais nous savons aussi qu'il y a la résurrection derrière. Nous sommes un petit peu comme dans le couvent de San Marco à Florence, sur ce beau tableau de Fra Angelico, cette belle fresque, où face au tombeau vide et à l'angoisse que manifestent les femmes, juste à côté, il y a un petit frère dominicain qui est là, dessiné par Fra Angelico, avec un léger sourire. Pourquoi ? Parce que lui connaît la suite. Nous aussi, comme chrétiens, nous connaissons la suite. Nous savons que nos souffrances, nos pénitences ne sont pas ultimes, mais qu'il y a quelque chose de plus grand derrière, que tout cela n'est qu'un moyen pour arriver finalement au bonheur céleste. Aujourd'hui, c'est la joie de l'attente. C'est la joie de l'attente qui sait qu'elle ne sera pas déçue. Pourquoi ? Parce que les dons dans l'ordre du salut reposent ultimement sur le don de Dieu, sur la promesse de Dieu, comme le dit si justement saint Paul. Et nous sommes enfants de la promesse. Les héritiers de la promesse, ce sont ceux qui croient au Christ, qui est lui-même l'accomplissement de cette promesse de Dieu à l'humanité. La joie, notre joie, ne vient pas de ce qu'on a pu réussir, nos efforts de carême, encore que cela est aussi une manifestation que nous pouvons le faire grâce à Dieu. Et l'espérance qui est la nôtre est renforcée par le fait que nous avons réussi à mettre en application nos petites résolutions. Parce que ultimement, loin d'être une joie superficielle et orgueilleuse, c'est la joie de se dire « de moi-même je ne pouvais rien ». Si j'ai pu accomplir quelque chose, c'est parce que Dieu m'a aidé, c'est parce que Dieu a été fidèle dans ses promesses, c'est parce que Dieu a été à l'œuvre et qu'il m'a donné sa grâce. Oui, notre joie repose ultimement sur l'espérance qui, est sûre et certaine parce qu'elle repose sur Dieu. C'est une sorte de dépossession aussi d'espérance. Parce que, les choses ne reposent pas sur nous, mais en même temps, elles reposent sur celui qui est le roc, qui est Dieu lui-même. Et nous sommes alors en sécurité. La joie vient aussi de la sécurité d'être avec le bon Dieu. L'évangile est celui de la multiplication des pains, symbole de l'Eucharistie. Et là, eh bien, nous pouvons dire la joie du Christ qui s'occupe de nous. Oui, là aussi, nous avons matière à espérer. Le Christ n'abandonne pas la foule. Il voit cette foule et encore aujourd'hui, le Christ voit cette foule qui le suit. Tous ici même, nous voulons nous mettre à la suite du Christ. Et nous savons que nous n'allons pas être déçus parce que le Christ, eh bien, n'est pas seulement les yeux braqués vers son Père. Il regarde, nous dit l'Évangile, il descendit son regard sur la foule qui était là. Le Christ est en hauteur, mais pas seulement pour son Père. Il est là pour la gloire du Père, mais aussi pour le salut du monde. Et il va s'occuper de nous. Il ne s'occupe pas seulement des affaires de son Père, ou plutôt, il s'occupe totalement des affaires de son Père en s'occupant aussi de nous. Alors le Christ prend soin de nous qui sommes pauvres, de nous qui avons faim, de nous qui ne pourrons pas le suivre s'il ne nous donne pas la force nécessaire pour pouvoir le suivre. Et cela, eh bien, est un grand message d'espérance. Nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à nous décourager parce que le Christ, encore une fois, prend soin de nous. Pourquoi avons-nous peur de nous déposséder? Pourquoi avons-nous peur d'aller, comme cette foule d'aujourd'hui, dans le désert, de finalement ne pas s'occuper de la nourriture, des choses de ce monde, d'aller écouter le Christ? Eh bien, parfois, nous avons peur parce que nous nous disons « cela est de la folie, il faut rester un peu humain, il faut rester prudent ». Sachons, eh bien, chers amis, pendant ce carême, se déposséder un petit peu de cette prudence de la chair, de cette prudence mondaine, pour se dire « le temps que j'emploierai à la prière, le temps que j'emploierai pour Dieu n'est pas un temps perdu, car Dieu me donnera toujours ce dont j'ai besoin pour pouvoir le suivre et pour pouvoir accomplir mon devoir d'État. » Le Christ a soin de son troupeau. Et alors il va non seulement le regarder, non seulement prendre conscience du manque qui est là dans cette foule de nourriture, mais il va lui donner cette nourriture. Le bon pasteur s'occupe de ses brebis. Et ce n'est pas pour rien que le Christ, que l'Évangile, pardon, eh bien, dit qu'il va faire reposer les gens là où il y avait de l'herbe. La foule qui est là est le symbole du troupeau. Et le Christ le fait paître là où il y a de l'herbe, là où il y a à manger. Alors, eh bien, le Christ voit qu'il est important de leur donner à manger. C'est la vie qui ainsi est permise par la nourriture. Le Christ veut nous donner cette nourriture. Quelle est-elle? Eh bien, c'est l'Eucharistie. Le Christ veut que nous ayons faim de lui, faim de l'Eucharistie, parce que c'est dans l'Eucharistie que nous pouvons trouver toutes les forces dont nous avons besoin pour le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à la résurrection, mais évidemment en passant par là où il est passé, la passion et la croix. Et Dieu sait s'il faut des forces pour accueillir la croix dans nos vies. Pas seulement une petite croix gentillette que de temps en temps le Seigneur nous envoie ou que l'on s'impose, mais les grandes croix de l'existence qui ne manquent absolument jamais d'arriver un jour ou l'autre et qu'il nous faut bien accueillir avec la joie d'accueillir la croix. Pourquoi la joie? Parce que là où il y a la croix, il y a aussi le Christ. Et que ce qui compte finalement dans la croix, ce n'est pas tant de souffrir, évidemment, parce que la souffrance laissée à elle seule n'a aucun intérêt. La joie qui est là, c'est de se savoir intimement uni au Christ dans sa souffrance, intimement uni au Christ avec lui, profondément en lui, et nous voulons vivre et continuer sa propre passion. Alors, ayons soif et faim de l'Eucharistie. Considérons la nourriture qui nous est donnée dans la communion comme vraiment la source de toute grâce et soyons dans l'action de grâce pour ce que nous donne le Seigneur. L'action de grâce, non pas l'action de grâce mondaine de ces gens qui veulent faire du Christ leur roi temporel, mais bien se dire, voilà, le Christ va être le roi de mon âme, le roi qui doit régner aussi dans ce monde, c'est vrai, mais tout d'abord dans mon cœur. Et puis, soyons dans la joie non seulement parce que le Christ nous regarde, non seulement parce que le Christ prend soin de nous en nous donnant à manger dans l'Eucharistie, mais encore parce que le miracle qu'il va faire, il le fait en abondance. Ce n'est pas juste une petite bricole que le Christ va nous donner pour pouvoir tenir tant bien que mal. C'est une abondance de grâce qui tombe tous les jours du ciel. Et notre grand malheur, j'allais dire, est celui de ne pas pouvoir tout récupérer. Nous sommes de trop petits récipients par rapport à ce que le Christ veut nous donner. Et même, on va dire, l'estomac de ces gens, de cette foule qui avait faim, est largement rassasié. On va même dire, il n'est pas assez grand pour contenir tout ce que le Christ va leur donner. Preuve en est, c'est qu'on va ramasser tout ce qui est en excédent. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu fait toujours les choses en abondance. Et si nous croyons que Dieu a été petit avec nous, qu'il a donné de manière parcimonieuse, ce n'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre, c'est à nous-mêmes. Notre récipient de grâce est beaucoup trop petit. Nous n'avons pas su élargir nos cœurs, mes bien chers amis, pour recevoir tout ce que le Christ voulait nous donner. Alors, il y a ici à la fois source de joie, le Christ nous donne mille et mille choses dans les sacrements, partout, tout le temps, tous les jours, toutes les grâces actuelles dont nous avons besoin pour faire notre devoir d'État, pour être à notre place, pour dire les bonnes paroles. Toute notre vie pourrait être celle de saint, véritablement, et malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous n'arrivons pas à utiliser toutes les grâces que le Christ veut nous donner. Quelle tristesse, quelle misère, mais aussi quelle source de dynamisme spirituel est ici. Parce que, alors, nous devons faire, pendant cette deuxième moitié de carême, tous les efforts nécessaires pour élargir notre cœur afin de recevoir la grâce de Dieu. Celle qui a reçu la grâce de Dieu en abondance, celle qui est comblée de grâce véritablement, c'est la Sainte Vierge. Alors demandons-lui à elle d'être à son image totalement ouverte au regard de Dieu, totalement ouverte à la communion et à l'Eucharistie, totalement ouverte à l'abondance divine qui veut se répandre en nous, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.